Chapitre 29. La princesse Violette se retourna sans crier gare et flanqua une formidable gifle à Rachel. Sa victime, bien entendu, n'avait rien à se reprocher. Mais la princesse adorait la frapper au moment où elle s'y attendait le moins. Un jeu très amusant. Rachel ne tenta pas de cacher sa douleur. Quand ça ne faisait pas assez mal, Violette y allait aussitôt d'une autre claque. Des larmes dans les yeux, Rachel posa une main sur la marque rouge, la lèvre inférieure tremblante, et ne dit rien. Revenue devant la petite commode en bois verni, Violette glissa un index dans la poignée en or, ouvrit un nouveau tiroir et en sortit un collier d'argent incrusté de grosses pierres précieuses bleues.
« Celui-là est très joli. Relève-moi les cheveux. »
La princesse se plaça devant le miroir en pied au somptueux cadre de bois et s'admira à loisir, tandis que ses doigts boudinés sur sa nuque manipulaient le fermoir du bijou. Alors qu'elle tenait en l'air les longs cheveux d'un brun terne de sa maîtresse, Rachel aperçut dans le miroir le reflet de son visage où s'étalait une grande marque rouge. Elle détestait se voir, surtout après que la princesse lui eut méticuleusement massacré les cheveux. Dans sa position, on n'avait pas le droit de les laisser pousser. Mais une coupe régulière, était-ce trop demandé? Si presque toutes les autres filles étaient tondues, le résultat chez elle avait meilleure allure. Hélas! Violette se régalait dans Lady Rachel à grands coups de ciseaux. Quand les gens jugeaient sa souffre-douleur disgracieuse, elle buvait du petit lait. Rachel fit reposer son poids sur son pied droit et le massa avec sa cheville gauche pour se désankyloser. Elles avaient passé l'après-midi dans la salle des bijoux de la reine. La princesse n'aimait rien tant qu'essayer les trésors de sa mère en contemplant son reflet dans le miroir. Étant son jouet humain, Rachel devait rester et s'assurer que Violette s'amusait comme une petite folle. Des dizaines de tiroirs étaient ouverts, en grand ou seulement à moitié. Des colliers et des bracelets en dépassaient comme des langues étincelantes. D'autres étaient éparpillés sur le sol avec des broches, des tiares et des bagues. La princesse baissa les yeux et désigna une pierre bleue montée sur un anneau d'or.
« Ramasse-moi ça !»
Rachel obéit, puis glissa la bague au doigt que sa maîtresse lui tendit devant le nez. Quand ce fut fait, Violette fit des effets de main devant la glace, la posant sur sa robe en satin bleu pâle, histoire de mettre l'anneau en valeur. Après un soupir d'ennui, elle se détourna de son image et approcha du piédestal de marbre blanc qui se dressait solitaire dans le coin opposé de la pièce. Là, elle contempla le trésor le plus cher de sa mère, dont elle ne manquait pas une occasion de vanter les mérites. Les petits doigts trop gras de Violette saisirent la boîte d'or incrustée de pierres précieuses et l'arrachèrent à son écrin de velours.
« Princesse ?»
cria Rachel sans réfléchir.
« Votre mère vous a interdit d'y toucher. »
Violette se retourna, l'air innocent, et lança la boîte à Rachel qui la rattrapa au vol, horrifiée à l'idée qu'elle puisse s'écraser contre un mur. Tremblant de peur en pensant au fabuleux trésor qu'elle osait serrer entre ses mains, elle le posa sur le sol et le lâcha vivement, comme s'il s'était agi d'un boulet de charbon chauffé au rouge. Puis elle recula, certaine de recevoir le fouet si on découvrait qu'elle osait se tenir si près de la précieuse boîte.
« Où est le problème ?»
cria Violette.
« La magie interdit qu'on la sorte de cette salle. Personne ne risque de la voler ou de l'endommager. »
Rachel ignorait tout de la magie. Mais elle ne voulait à aucun prix être surprise en train de toucher la boîte de la reine.
« Je descends dans la salle à manger !»
annonça la princesse, son gros nez levé.
Pour voir arriver les invités et attendre qu'on mange. Range-moi tout ça. Puis va dire au cuisinier que je ne veux pas de la viande racornie cette fois. Si ça recommence, je dirai à ma mère de leur faire donner le bâton. « À vos ordres, princesse Violette !»
fit Rachel.
« Tu n'oublies pas quelque chose, ma fille ?»«
Oh oui, merci de m'avoir permis de venir ici. Vous êtes si jolie avec tous ces bijoux. »
« Il faut bien que je fasse quelque chose pour toi. » Tu dois en avoir assez de voir ton affreux visage dans la glace.
Ma mère dit qu'il faut se montrer gentil avec ceux que le destin n'a pas gâtés.
Elle glissa une main dans sa poche.
Tiens, voilà la clé. N'oublie pas de refermer quand tu auras tout remis en ordre.
Ce sera fait, princesse,
souffla Rachel avec une révérence. Alors qu'elle lui donnait la clé, La main libre de Violette jaillit de nulle part et percuta la joue de Rachel avec une violence inouïe. À demi sonnée, la pauvre enfant regarda son bourreau sortir en riant aux éclats. Bruit de gorge haut perché et grinçant de méchanceté, le rire de la princesse était presque aussi douloureux que ses gifles. En larmes, Rachel s'agenouilla et entreprit de ramasser les trésors négligemment jetés sur le tapis. Marquant une pause, elle frotta la nouvelle marque laissée sur sa joue par sa maîtresse.
Ça lui faisait un mal de chien.
Rachel décrivit de grands cercles autour de la boîte. Trop effrayée pour y toucher, elle lui jetait des regards en biais, consciente qu'elle devrait tôt ou tard la reposer à sa place. Elle mit un temps infini à ranger les bijoux et à fermer les tiroirs, avec l'espoir qu'elle n'en terminerait jamais et ne serait pas obligée de ramasser l'objet que la reine chérissait plus que tout. La souveraine serait hors d'elle si elle apprenait qu'un minable jouet humain avait souillé sa précieuse boîte. Et comme un de ses passe-temps favoris était d'expédier les gens sous la hache du bourreau, parfois, Violette amenait Rachel aux exécutions. Si elle fermait les yeux tout au long, sa maîtresse ne perdait pas une miette du spectacle. Quand tous les bijoux furent rangés et le dernier tiroir fermé, Rachel regarda la boîte du coin de l'œil. Elle eut le sentiment d'être dévisagée en retour, comme si l'objet risquait de la dénoncer à la reine. Mobilisant tout son courage, elle s'agenouilla, ramassa la boîte et, la tenant à bout de bras, avança lentement entre les tapis, terrifiée à l'idée de laisser tomber son fardeau. Elle le remit en place sur le piédestal, très lentement pour ne pas risquer qu'une des incrustations se détache. Enfin, soulagée, elle lâcha la boîte. En se retournant, elle aperçut sur le sol l'ourlet d'une robe couleur argent et en eut le souffle coupé.
Comment était-ce possible, puisqu'elle n'avait pas entendu de bruit de pas? Pourtant quelqu'un était là.
Le regard de Rachel remonta lentement le long de la robe, vola sur les deux mains qui dépassaient des manches, survola la barbe blanche pointue puis le nez crochu et s'arrêta au niveau des yeux noirs que surmontait un crâne chauve.
« Le sorcier ?»«
Maître Giller !»
gémit-elle, certaine d'être foudroyée dans la seconde.
« Je la remettais en place, c'est tout, je le jure, s'il vous plaît, ne me tuez pas !»
Elle voulut reculer, mais ses pieds refusèrent de lui obéir.
« S'il vous plaît !»
Elle tira sur sa jupe et mordit l'ourlet pour ne pas éclater en sanglots. Quand le sorcier s'accroupit devant elle, elle ferma les yeux, sûre que sa dernière heure avait sonné.
« Mon enfant !» dit gentiment Giller.
Rachel ouvrit prudemment un œil et constata stupéfaite qu'il s'était simplement agenouillé en face d'elle, leur visage au même niveau.
« Je ne te ferai pas de mal, rassure-toi. »«
Vraiment ?»
demanda Rachel en ouvrant son autre œil tout aussi prudemment.
Elle n'en croyait pas un mot. Derrière le sorcier, la lourde porte était fermée, la privant de sa seule chance de fuir.
« Vraiment ?»
confirma Giller.
« Qui a déplacé la boîte ?»«
On jouait, c'est tout. Oui, un jeu, rien de plus. Je l'ai remise en place pour faire plaisir à la princesse. Elle est très gentille avec moi, alors je voulais l'aider. Elle est si merveilleuse, je l'adore et elle... »
Le sorcier posa un doigt sur les lèvres de l'enfant.
« J'ai compris, ma petite. Ainsi, tu es son jouet humain ?»«
Oui, Rachel. » »«
Quel joli nom !»
Je suis très content de te rencontrer, Rachel. Navré de t'avoir fait peur, je venais simplement jeter un coup d'œil sur la boîte de la reine.
Personne ne lui avait jamais adressé de compliments sur son nom. Mais il avait aussi fermé la porte.
Vous n'allez pas me faire brûler vive, ni me transformer en crapaud?
Mais non, ma chérie.
Il la dévisagea.
Dis-moi, c'est quoi ces marques rouges sur ta figure?
Rachel ne répondit pas, trop apeurée pour dénoncer sa maîtresse. Lentement, le sorcier lui toucha une joue du bout des doigts, puis il passa à l'autre. La sensation de brûlure disparut aussitôt.
« Tu te sens mieux ?»
Rachel hocha la tête.
De si près, les yeux du sorcier lui paraissaient énormes.
Ils lui donnèrent envie de tout lui dire, et elle ne résista pas.
« La princesse m'a frappée !»
avoua-t-elle honteuse.
« Vraiment ? Elle n'est pas si gentille que ça avec toi, pas vrai ?»
Rachel fit non de la tête. Alors le sorcier eut un comportement qui la stupéfia. Il l'enlaça et la serra contre lui.
D'abord pétrifiée, Rachel se détendit, lui passa les bras autour du cou et lui rendit son étreinte. Ses longs favoris blancs lui chatouillèrent la gorge et le visage, mais ça ne la dérangea pas.
Le sorcier s'écarta d'elle et la regarda, l'air très malheureux.
« Désolé, mon enfant, la reine et la princesse peuvent se montrer très cruelles. »
Sa voix, très agréable, lui rappela celle de Brophy. Sous son nez crochu, ses lèvres dessinaient un grand sourire.
« Mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. »
Il glissa une main dans sa robe et leva les yeux au plafond pendant que sa main fouillait sa poche. Rachel écarquilla les yeux quand il en sortit une poupée aux cheveux blonds très courts comme les siens et lui tapota le ventre.
« C'est une poupée malheur. »«
Une poupée malheur ?»«
Exactement. » Giller sourit et des ridules se formèrent au coin de ses lèvres.
« Quand tu as des malheurs, raconte-les-lui et elle te les fera oublier. Elle a un pouvoir, tu sais. Tiens, essaie. »
Le souffle court, Rachel tendit les mains et saisit délicatement la poupée. Elle la blottit contre sa poitrine et la serra très fort. Puis timidement, elle la leva à hauteur de son visage et ses yeux s'embuèrent.
« La princesse Violette dit que je suis laide, »
confia-t-elle à la poupée. Quand les lèvres du jouet dessinèrent un sourire, Rachel en resta bouche bée.
« Je t'aime, Rachel !»
souffla une toute petite voix.
L'enfant poussa un petit cri de surprise, puis rayonnante, elle serra de nouveau contre elle la poupée malheur. Soudain, elle se souvint et voulut rendre son cadeau au sorcier.
« Je n'ai pas le droit d'avoir une poupée. La princesse me l'interdit. Si elle la découvre, elle la jettera au feu. C'est ce qu'elle a dit. »
Laisse-moi réfléchir, » fit le sorcier en se frottant le menton. « Où dors-tu, mon enfant ?»«
Presque toujours dans la chambre de la princesse. Elle m'enferme dans son coffre à linge. C'est très cruel. Parfois, quand elle estime que j'ai été méchante, elle me chasse du château pour la nuit. Alors je dois me débrouiller dehors. Elle croit que c'est une punition. Moi, j'aime plutôt ça parce que j'ai une cachette dans un pain compagnon où je dors très bien. » Les pains compagnons n'ont pas de verrou, contrairement au coffre à linge. Du coup, je peux faire mes besoins quand j'en ai envie. Parfois, la nuit est froide, mais j'ai un tas de paille et je me glisse dessous pour me réchauffer. Je rentre toujours tôt au château avant qu'elle envoie des gardes à ma recherche. Comme ça, ils ne risquent pas de trouver ma cachette. Sinon, ils le diraient à la princesse et ne m'enverraient plus jamais dehors.
Le sorcier lui prit délicatement la tête entre ses mains tavelées. Une sensation très étrange.
« Ma pauvre enfant, » soupira-t-il, « dire que j'ai une part de responsabilité dans tout ça. »
Des larmes perlèrent à ses paupières. Rachel ne se doutait pas que les sorciers savaient pleurer.
« Mais j'ai une idée. »
Il sourit de nouveau et tendit un index triomphal.
« Tu connais les jardins ? Je veux dire, les beaux jardins où il y a parfois des fêtes.
« Oui, je dois les traverser pour rejoindre ma cachette quand je dors dehors. » La princesse me fait franchir le mur d'enceinte par le portail des jardins. Elle ne veut pas que je passe par devant où il y a des boutiques et des gens. Elle a peur que quelqu'un me recueille pour la nuit. Interdiction d'aller en ville ou près des fermes. La punition, c'est d'être dans la forêt.
Bien. Quand on descend l'allée principale des jardins, on voit des vasques des deux côtés où sont plantées des fleurs jaunes.
Oui, je les connais.
Je cacherai ta poupée dans la troisième, sur la droite. Je la protégerai avec une toile de sorcier, un truc magique, pour que toi seul puisses la trouver. »
Il prit la poupée et la fit disparaître sous sa robe.
« Quand la princesse te chassera, tu passeras par là et tu récupéreras ta poupée. Ensuite, tu la garderas dans ton pain compagnon où personne ne viendra te la prendre. Je te laisserai un bâton de feu magique. Tu n'auras qu'à faire un petit tas de brindilles, pas trop gros surtout, et l'entourer de pierres. Quand tu pointeras le bâton dessus en disant « Brûle pour moi !» des flammes jailliront et tu auras chaud. »
Rachel lui jeta de nouveau les bras autour du cou et le serra très fort pendant qu'il lui tapotait le dos.
« Merci, maître Giller. »
« Quand nous sommes seuls, tu peux m'appeler Giller tout court, ma chérie. C'est ce que font tous mes amis. »
« Merci pour la poupée, Giller. On ne m'avait jamais rien offert de si beau. Je veillerai bien sur elle. Mais à présent, je dois y aller. Il faut que je réprimande les cuisiniers au nom de la princesse. Après, je devrais m'asseoir et la regarder manger. »
Rachel sourit.
« Ça me laissera le temps de penser à une bêtise à faire pour qu'elle me jette dehors cette nuit. »
Le sorcier rit de bon cœur, ses yeux pétillants de malice. Après avoir ébouriffé les cheveux de sa protégée, il l'aida à ouvrir et à fermer la porte, la verrouilla et lui rendit la clé.
« J'espère qu'on pourra encore se parler, »
dit Rachel pleine d'espoir.
« Nous nous reverrons, ma petite, j'en suis sûre. »
Sur un dernier geste de la main pour son nouvel ami, Rachel courut dans le long couloir désert, plus heureuse que jamais depuis qu'elle était venue vivre au château. Pour gagner les cuisines, un long chemin, elle descendit plusieurs escaliers, traversa d'autres couloirs, avec des tapis sur le sol et des tapisseries au mur, passa dans de grandes pièces aux hautes fenêtres drapées de rideaux or et rouge, frôla des chaises en velours pourpre aux pieds dorés à leur fin, marcha sur des tapis où on voyait se battre des hommes à cheval, croisa des gardes qui patrouillaient par paires, en vit d'autres immobiles comme des statues devant de grandes portes, et évita du mieux qu'elle put les domestiques qui couraient en tous sens, portant du linge, des plateaux, ou encore des seaux, des chiffons et d'énormes balais. Personne ne fit attention à elle, même si elle courait. Tous la connaissaient, et ce n'était pas la première fois que le jouet humain fonçait à travers le château en mission pour sa princesse. Rachel était épuisée quand elle arriva aux cuisines, une ruche bourdonnante d'activité à l'atmosphère saturée de vapeur et de fumée. Chargée de gros sacs, d'énormes casseroles ou de plateaux brûlants, les marmitons dansaient un ballet frénétique en essayant de ne pas se percuter les uns les autres. Sur de grandes tables, d'autres garçons de cuisine débitaient avec ardeur des produits que Rachel était trop petite pour apercevoir. Dans le bruit des poêles qui s'entrechoquaient, les cuisiniers braillaient des ordres aux assistants qui s'affairaient à pendre ou à décrocher toute une batterie d'ustensiles étranges rangés sur des râteliers. Tout le monde criait en même temps, couvrant le bruit des cuillères qui raclaient contre le fond des chaudrons et le doux crépitement du beurre, des oignons et des épices mis à frire avec de l'huile dans de grandes sauteuses. L'air embaumait tellement que la tête de Rachel lui tourna. Elle tira sur la manche d'un des deux chefs cuisiniers et essaya de dire qu'elle avait pour lui un message de la princesse. Mais l'homme se disputait avec son collègue. Énervé, il lui ordonna d'aller s'asseoir et d'attendre qu'il ait fini. Rachel repéra une petite chaise près des fours. Elle s'y installa, le dos contre la brique chaude. Les délicieuses odeurs de cuisson pour une enfant affamée tenaient de la torture. Mais si elle demandait quelque chose à manger, ça lui vaudrait des ennuis. Debout devant une grosse cruche, les deux hommes s'invectivaient en agitant les bras. Soudain, le récipient tomba de la table, se fendit en deux et libéra un liquide ambré qui se répandit aussitôt sur le sol. Pour qu'il n'entre pas en contact avec ses pieds nus, Rachel sauta prestement sur sa chaise. Les deux cuisiniers s'étaient pétrifiés, le visage presque aussi blanc que leur tablier.
« On est bien avancé maintenant, »
dit le plus petit des deux.
« Que faire? Il ne nous reste rien des ingrédients envoyés par le petit père Ral. »
« Une minute, »
souffla le plus grand, une main sur le front.
« Laisse-moi réfléchir. »
Il se concentra, puis leva triomphalement les bras.
« J'ai une idée. Déniche-moi une autre cruche et ferme ta gueule. On va peut-être sauver nos têtes. Trouve d'autres ingrédients, abruti. »
« Mais quels ingrédients, espèce d'andouille?
Des trucs couleur ambre. »
Rachel les regarda s'affairer. Ils mélangèrent toutes sortes de poudres dans une bouteille, ajoutèrent un liquide indéfinissable, agitèrent le tout et goûtèrent. Satisfaits du résultat, ils sourirent de toutes leurs dents.
« Parfait, ça marche !»
dit le plus grand.
« Enfin, je crois. Mais ferme-la et laisse-moi parler. »
Sur la pointe des pieds, Rachel traversa le plancher humide et tira de nouveau sur la manche de l'homme.
« T'es toujours là, toi? Que veux-tu à la fin ?»«
La princesse Violette refuse de manger de la viande trop cuite et trop sèche. Si vous n'obéissez pas, elle demandera à sa mère de vous faire fouetter. »
Rachel baissa humblement les yeux.
« C'est elle qui m'a ordonné de vous prévenir. »
Le cuisinier regarda l'enfant, puis se tourna vers son collègue.
« Je te l'avais dit. Bon sang, je te l'avais dit. Pour la princesse, coupe le morceau en deux dans le sens de la largeur, et ne te trompe pas d'assiette ou nous finirons sur l'échafaud. »
Il regarda de nouveau Rachel, puis désigna la cruche.
« Toi, tu n'as rien vu ni entendu. »
« Je ne dois pas raconter que je vous ai vu cuisiner ?»
« Eh bien, d'accord. »
Toujours sur la pointe des pieds, Rachel battit en retraite.
« Je ne dirai rien, c'est promis. D'ailleurs, je déteste voir des gens être maltraités par ces hommes avec leur fouet. Jurez, je garderai ça pour moi.
Attends un peu. Tu t'appelles Rachel, c'est ça ?
La gamine se retourna et hocha la tête.
Reviens par ici, petite.
Rachel n'en avait pas envie du tout, mais elle obéit. Le cuisinier prit un grand couteau qui la fit trembler de peur. Mais il approcha d'une table et dans un plat coupa une grosse tranche de rôti gorgée de jus. Rachel n'avait jamais vu, de si près en tout cas, une viande aussi belle, sans gras et sans nerfs, le genre de morceau de choix que la reine et la princesse se réservaient.
« Désolé d'avoir été méchant avec toi, Rachel. Va te rasseoir sur ta chaise et mange. Ensuite, nous nettoierons ton petit minois pour que personne ne s'aperçoive de rien. »
La gamine hocha joyeusement la tête et courut vers le siège, trop excitée pour penser à marcher sur la pointe des pieds.
Vraiment, elle n'avait jamais rien goûté de si bon. Elle essaya de faire durer le plaisir en mangeant lentement, fascinée par la frénésie des marmitons, mais elle n'y parvint pas. Du jus de cuisson ruissela sur ses avant-bras et sur ses coudes. Quand elle eut fini, le petit cuisinier vint lui frotter les mains, les bras et le visage avec une serviette. Puis il lui donna une part de tarte au citron, sans la mettre sur une assiette comme l'autre avait fait avec la viande. Ayant préparé lui-même la pâtisserie, il voulait savoir ce que Rachel en pensait. Quand elle déclara n'avoir jamais rien mangé d'aussi bon, il parut aux anges. Aussi loin qu'elle remonta, c'était le meilleur jour de sa vie. Deux événements heureux en quelques heures. La poupée malheur et ce délicieux repas. De quoi se sentir une reine.
Un peu plus tard, dans la grande salle à manger, quand Rachel prit place sur sa petite chaise derrière la princesse, son estomac pour la première fois n'émit pas de gargouillis saugrenus pendant que les gens importants se gavaient. La table d'honneur étant surélevée de 6 ou 7 pieds, il lui suffisait de se tenir bien droite pour avoir une vue d'ensemble sur l'assistance. Les serviteurs s'agitaient sans cesse. Ils débarrassaient certaines assiettes, encore à demi pleines, servaient du vin à flot et remplaçaient les plats tièdes par des préparations sorties de la cuisine. Le regard de Rachel s'attarda sur les gentes dames et les seigneurs richement vêtus qui jouaient avec enthousiasme de la fourchette et du couteau. Pour une fois, elle connaissait le goût des mets dont ils se régalaient, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi ils avaient besoin d'autant de couverts. Quand elle lui avait posé la question, Violette s'était écriée qu'une pauvre souillon n'avait pas besoin de savoir ce genre de choses. Lors des banquets, personne ne faisait attention à elle, et la princesse lui accordait rarement plus d'un ou deux coups d'œil. Violette voulait qu'elle soit là pour exhiber son jouet, rien de plus, et peut-être aussi parce que la reine, pendant les repas, avait des gens assis ou debout derrière elle. Car Rachel, comme le disait souvent la souveraine, était là pour entraîner Violette à l'exercice du pouvoir. L'enfant se pencha en avant et souffla.
« La viande est-elle à votre goût, princesse ? J'ai dit au cuisinier de ne plus vous traiter aussi mal. »
Du jus dégoulinant de son menton, Violette jeta un coup d'œil derrière son épaule.
« Elle est assez bonne pour lui éviter le fouet. Et tu as raison, il est temps qu'ils apprennent à me traiter dignement. »
Comme toujours lors des repas, la reine Milena avait pris son petit chien avec elle. Tout excité, il frétillait des quatre pattes et gratinant l'énorme bras de la souveraine pendant qu'elle le gavait de petits morceaux de nourriture dont Rachel aurait volontiers fait son ordinaire. « Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, » pensa-t-elle en souriant. Rachel détestait cet animal. Il aboyait sans cesse et adorait quand Milena le posait sur le sol, se jetait sur elle pour lui planter ses petites dents pointues dans les mollets. Bien entendu, l'enfant n'osait pas se plaindre. D'ailleurs, quand le cabot la mordait, la reine s'inquiétait toujours qu'il puisse se faire mal. Pour lui parler, elle prenait une voix haut perchée et douceâtre qui faisait grincer les dents de Rachel. Pendant que Milena et ses ministres discutaient d'une affaire d'alliance, la fillette s'amusa à battre un peu les jambes et à jouer des castagnettes avec ses genoux. Pour passer le temps, elle pensa à sa poupée malheur. Le sorcier était assis derrière la reine, à sa droite, et il lui donnait son avis quand elle le demandait. Dans sa robe argentée, il avait l'air si majestueux. Jusque-là, Rachel ne s'était pas beaucoup intéressée à lui. Un courtisan parmi d'autres, toujours à la traîne de la reine, à l'instar de son fichu chien. Bien sûr, les gens avaient peur de lui, comme elle craignait le chien. Mais à présent, son regard sur lui avait changé. Sans doute l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais connu. Il ne l'avait pas regardée une fois, sûrement pour ne pas attirer l'attention sur elle et éveiller le courroux de Violette. Une bonne initiative. Si elle avait su qu'il trouvait son nom joli, la princesse aurait piqué une crise de colère. Chaque fois que la reine hochait la tête au propos d'un courtisan, ses longs cheveux noirs ondulaient de droite à gauche sur le dossier sculpté de sa magnifique chaise. Quand le repas fut terminé, des serviteurs arrivèrent, poussant un petit chariot sur lequel trônait la cruche que Rachel avait vue à la cuisine, la deuxième évidemment. Avec une louche, ils remplirent des gobelets et en donnèrent à tous les convives qui prirent aussitôt une mine très sérieuse. La reine se leva, son gobelet dans une main et le chien sous son autre bras.
« Mesdames et messieurs,
dit-elle,
je vous invite à boire le verre de l'édification afin que nous puissions voir la vérité. Ce nectar étant extrêmement rare, fort peu de gens ont eu l'occasion d'y goûter. Bien entendu, je fais exception à la règle, car il est essentiel pour assurer le bien-être de mon peuple que je sois constamment édifié sur la sainte philosophie du petit père Ral. À présent, buvons !»
Certains convives parurent hésiter, mais ça ne dura pas longtemps et tous vidèrent leurs gobelets. La reine but la dernière puis se rassit, l'air toute chose. Appelant un domestique, elle lui murmura quelques mots à l'oreille. Lorsqu'elle vit que Milena fronçait les sourcils, Rachel frissonna. Dès que le front de la reine se plissait, les têtes ne tardaient pas à tomber. Le grand cuisinier entra dans la salle à manger, tout sourire. Mais quand la reine lui fit signe d'approcher et de se pencher vers elle, Rachel vit que de la sueur ruisselait sur son visage. Était-ce à cause de la chaleur infernale qui régnait dans la cuisine? Assise derrière la princesse, elle-même à la droite de Milena, l'enfant put entendre le dialogue.
« Ça n'a pas le même goût que d'habitude !»
dit Milena d'une voix dure. Elle ne prenait pas toujours ce ton-là, raison de plus pour s'inquiéter quand elle y recourait.
« Eh bien, Majesté, pour tout vous dire, ce n'est pas tout à fait la même boisson. »
Il parla très rapidement, ses sourcils se levant et se baissant à toute vitesse.
« Vous voyez, en vérité, eh bien, je savais que c'était un banquet très important et que vous vouliez que tout se passe à merveille, que tous les gens soient très édifiés pour voir votre munificence et votre clairvoyance au sujet de tous ces trucs. »
Il se pencha un peu plus et baissa la voix.
« Alors, j'ai pris la liberté de préparer un vin de l'édification un peu plus fort, enfin, beaucoup plus fort en réalité, pour que l'assistance ne risque pas de passer à côté de la pertinence de vos propos. Oh, croyez-moi, Majesté, ce vin est si fort que tout le monde sera plus édifié que jamais. »
Il se pencha davantage et murmura.
« Pour tout vous avouer, splendeur des splendeurs, il est si corsé que tous ceux qui ne seront pas édifiés et vous contrediront pourront être tenus pour des traîtres.
Vraiment ?
Lança Milena.
Je me disais bien que ce vin était plus capiteux que d'habitude.
Quelle perspicacité, votre majesté ! Votre palais est digne de celui des meilleurs goûteurs. J'étais sûr que vous vous en apercevriez.
Certes, mais ce vin n'est-il pas un peu trop fort ? « Je suis tellement édifié que j'en ai la tête qui tourne !»«
Votre Majesté,
dit le cuisinier,
le vin de l'édification n'est jamais trop fort quand votre pouvoir est en jeu. Que les traîtres se démasquent donc !»
Milena approuva du chef et sourit.
« Voilà un cuisinier sage et loyal. À partir de ce soir, je te nomme unique responsable de la préparation du vin de l'édification. »
« Merci mille fois, lumière de notre temps !»
L'homme fit une demi-douzaine de révérences et s'éclipsa. Rachel se réjouit qu'il s'en sorte à si bon compte.
« Mesdames et messieurs, j'ai une petite surprise pour vous. Ce soir, j'ai demandé au cuisinier de nous servir un vin de l'édification très puissant. Ainsi, tous ceux qui me sont loyaux ne manqueront pas de reconnaître la sagesse des enseignements du petit père Ral. »
Les courtisans sourirent pour manifester leur fervente approbation. Certains annoncèrent qu'ils ressentaient les effets particulièrement édifiants de ce fabuleux nectar.
Une autre petite surprise, mesdames et messieurs, pour vous divertir.
La reine claqua des doigts.
Garde, amenez ce fou.
Des soldats poussèrent un homme au centre de la salle, en face de la table d'honneur. Grand et musclé, le prisonnier était couvert de chaînes.
« Nous savons tous,
continua la reine,
qu'une alliance avec Darkenral nous serait bénéfique. Et les petites gens, les travailleurs ou les fermiers, nous le savons aussi, en tireraient le plus grand profit. Car ils seraient enfin libérés du joug de ceux qui les exploitent honteusement pour s'enrichir et assouvir leurs bas instincts. À partir de maintenant, nous allons tous œuvrer pour le bien commun et oublier nos désirs individuels. »
La reine braqua un index sur le prisonnier.
« À présent, explique à ces dames et à ces seigneurs, si ignorants, pourquoi tu es beaucoup plus intelligent qu'eux et pourquoi tu devrais être autorisé à travailler dans ton seul intérêt au lieu de te dévouer aux autres. »
L'homme avait l'air furieux. Rachel espéra le voir changer rapidement d'expression, sinon il risquait de gros ennuis.
« Le bien commun !»
dit-il en désignant l'assistance de son bras droit lesté de chaînes.
« C'est ça que vous appelez le bien commun? Des hobereaux qui s'empiffrent tous les jours et s'asseyent devant leur cheminée quand il fait froid? Mes enfants n'ont rien eu à manger ce soir, parce que ma récolte a été réquisitionnée pour votre fameux bien commun. Des pourceaux qui ne se donnent pas la peine de travailler et qui dévorent le fruit de mon labeur !»
L'assistance éclata de rire.
« Tu voudrais que ces gens n'aient rien à se mettre sous la dent parce que tu as la chance d'avoir des champs fertiles ?»
demanda la reine.
« Oh, quel égoïste !»«
Leurs champs seraient tout aussi fertiles s'ils daignaient les ensemencer. »«
Donc, tu te soucies si peu des autres que tu les condamnerais sans remords à la famine ?»«
Ma famille meurt de faim. Tout ça pour vous nourrir et engraisser l'armée de Darkenral. Oui. » Pour vous nourrir, dames et seigneurs, qui savez seulement bavarder et décider comment répartir ma récolte entre des profiteurs qui n'ont rien fait pour qu'elle pousse.
Rachel espéra que l'homme se calmerait. S'il continuait comme ça, il ne garderait pas longtemps la tête sur les épaules, même si la reine et les courtisans, pour l'instant, semblaient le trouver amusant.
« Ma famille a froid, »
ajouta-t-il, de plus en plus furieux,
« parce qu'on nous a interdit de faire du feu. »
Il désigna une des nombreuses cheminées.
« Ici, de belles flambées réchauffent les bouffons qui osent me dire que nous sommes tous égaux et que plus personne n'aura de privilèges. En conséquence, je n'ai plus le droit de conserver ce qui m'appartient. N'est-il pas étrange que ceux qui parlent d'égalité, grâce à une alliance avec Ral, et ne travaillent jamais, sauf pour savoir comment me dépouiller, soient bien nourris, bien chauffés et habillés de soie? Les miens n'ont rien dans l'estomac et des haillons sur le dos. »
Tout le monde rit, sauf Rachel, qui avait eu assez souvent faim et froid pour comprendre.
« Mesdames et messieurs, »
dit la reine épanouie,
« ne vous avais-je pas promis un divertissement royal? Le vin de l'édification nous permet de voir cet homme sous son vrai jour, un imbécile égoïste, car il se croit vraiment en droit de prospérer pendant que les autres dépérissent. Son intérêt passe avant celui de ses frères humains. Au nom de sa cupidité, il exécuterait bien ceux qui ont faim. »
Toute l'assistance rit de bon cœur avec la reine. Soudain, elle tapa du poing sur la table. Les assiettes vibrèrent et quelques verres se renversèrent, tachant de rouge la splendide nappe blanche. Tout le monde se tut, sauf le roquet qui aboya sa petite gueule chafouine tendue vers le prisonnier.
« Ce genre de cupidité disparaîtra quand l'armée du peuple viendra nous débarrasser de toutes les sangsues qui nous vident de notre fluide vital. »
Milena s'était empourprée, les joues aussi rouges que les taches de vin sur la table. Les courtisans applaudirent en poussant des vivas. La reine se rassit et s'autorisa un sourire. Aussi écarlate qu'elle, l'homme ne capitula pas.
« N'est-il pas curieux, à présent que les ouvriers et les paysans travaillent pour le bien commun ?» « Qu'il n'y ait plus assez de nourriture pour tout le monde ?»
La reine se leva d'un bond.
« Ce n'est pas normal du tout !»
cria-t-elle.
« Mais c'est la faute des profiteurs comme toi !»
Elle prit plusieurs inspirations, les joues un peu moins rouges, et se tourna vers sa fille.
« Violette, ma chérie, il est temps que tu apprennes à gouverner. Au nom du bien public, évidemment. » La pratique étant beaucoup plus enrichissante que la théorie, je te laisserai juger cette affaire. Quel sort réserverais-tu à ce traître? Choisis, mon enfant, et tu seras obéi.
La princesse se leva et, tout sourire, balaya l'assistance du regard.
« Voilà ma décision !»
Elle se pencha au-dessus de la table, les yeux rivés sur le prisonnier.
« Qu'on le décapite !»
Tout le monde applaudit et gloussa d'aise. Les gardes emmenèrent le condamné, qui leur jeta à la tête des adjectifs que Rachel ne connaissait pas, mais elle était désolée pour lui et pour sa famille. Après quelques minutes de joyeux bavardage, les courtisans décidèrent d'aller assister à l'exécution du traître. Quand la reine sortit, Violette se tourna vers Rachel et l'invita à venir regarder aussi. L'enfant se campa devant sa maîtresse, les poings sur les hanches.
« Vous êtes très méchante. Faire couper la tête de cet homme n'est pas bien. »
La princesse mit également les poings sur ses hanches.
« C'est ce que tu penses? Pour ta peine, tu passeras la nuit dehors. » « Princesse, il fait si froid dans la forêt. En grelottant, tu te demanderas comment tu as osé me parler sur ce ton. Et pour que ça te serve de leçon, tu resteras dehors toute la journée de demain et la nuit d'après. »
La cruauté qui s'affichait sur son visage rappela à Rachel celle dont la reine faisait parfois montre.
« Espérons que ça t'enseignera le respect. »
Rachel voulut dire quelque chose pour sa défense, mais elle se souvint de la poupée malheur. Passer la nuit dehors était son plus cher désir. La princesse désigna la porte.
« Va-t'en, et tu n'auras rien à manger !»
ajouta-t-elle en tapant du pied. Rachel baissa les yeux comme si elle était désespérée.
« J'obéis, princesse Violette !»
dit-elle avec une révérence. Tête basse, elle franchit la porte et descendit un couloir décoré de magnifiques tapisseries. Elle adorait contempler ces images. Mais elle s'abstint de relever les yeux au cas où la princesse la regarderait encore. Pas question que sa tortionnaire s'aperçoive qu'elle était ravie de passer la nuit dehors. Des gardes en armure, épées à la ceinture et hallebardes au poing, ouvrirent les grandes portes de fer sans dire un mot. Ils ne lui parlaient jamais quand elle sortait et pas davantage quand elle revenait. Le jouet humain de Violette n'était rien pour eux comme pour tous les autres. Une fois dehors, elle se força à ne pas marcher trop vite, redoutant toujours qu'on l'observe. Sous ses pieds nus, les dalles lui parurent aussi froides que de la glace. Les mains glissées sous les aisselles pour garder ses doigts au chaud, elle passa d'une terrasse à l'autre, attentive à ne pas tomber, et atteignit enfin le chemin pavé. Des gardes patrouillaient. Comme leurs collègues, à force de la voir, ils ne lui prêtèrent aucune attention. Plus elle approchait des jardins, plus la fillette s'autorisait à allonger le pas. Arrivée dans l'allée principale, elle ralentit et attendit que les soldats de faction aient tourné le dos. La poupée malheur était là où Giller l'avait dit. Après avoir mis le bâton magique dans sa poche, l'enfant la serra contre elle, puis la cacha derrière son dos en lui murmurant de se tenir tranquille. Rachel avait hâte d'arriver au pain compagnon pour raconter à sa nouvelle amie combien Violette avait été méchante. Faire couper la tête d'un homme, quelle horreur! Elle regarda alentour. Personne ne l'avait vu récupérer la poupée. Sur le mur d'enceinte, des sentinelles arpentaient le chemin de garde et d'autres flanquaient le portail, immobiles comme des statues dans leurs armures. Dessous, ces soldats portaient une bizarre tunique rouge sans manches qui arborait le blason de la reine, une tête de loup noire. Quand ils enlevèrent les lourdes barres de fer pour lui ouvrir les portes, aucun n'eut la curiosité de regarder ce qu'elle cachait dans son dos. Dès qu'elle eut entendu un claquement sec, celui des barres qu'on remettait en place, et vérifié que les sentinelles sur les créneaux ne regardaient pas dans sa direction, Rachel sourit de soulagement et s'autorisa enfin à courir. Il lui restait un long chemin à faire. Au sommet d'une tour, deux yeux noirs la regardèrent détaler. Ils l'avaient vue passer devant les premiers gardes sans éveiller leur méfiance, invisible comme une vague dans la mer, puis franchir sans difficulté le mur d'enceinte qui avait brisé les assauts de tant d'armées ennemies et interdit à des légions de traîtres de s'enfuir. Ils la suivirent alors qu'elle traversait le pont où des centaines d'assaillants étaient tombés, criblés de flèches, et la perdirent enfin de vue quand elle s'enfonça dans les champs, pieds nus, désarmée et innocente, en chemin vers la forêt et sa chère cachette. Furieux, Zed poussa violemment la plaque de métal glacé. La lourde porte de pierre se ferma lentement avec force grincement. Pour approcher du parapet, il avait dû enjamber des cadavres de gardes de Dara. Ses doigts se posèrent sur la pierre lisse si familière, et il se pencha en avant, scrutant la cité endormie en contrebas. Du haut de cette muraille, à flanc de montagne, la ville semblait paisible. Mais pour venir, il s'était faufilé dans les rues obscures où les soldats grouillaient partout. Des troupes arrivaient là au prix de beaucoup de vies perdues dans les deux camps. Mais ce n'était pas le pire. Darkenral était venu ici. Zed tapa du poing sur la pierre. Seul Ral avait pu commettre ce vol. La toile de champ de force aurait dû résister. Mais ça n'avait pas été le cas. Bon sang, il s'était absenté trop longtemps. Un vrai crétin.
Rien n'est jamais facile, marmonna-t-il.